À l'écoute de l'Italie,
une émission de l'INIS le quatrième jeudi de chaque mois de 18h à 19h.
Retransmission le dimanche suivant de 10h à 11h et le lundi suivant de 21h à 22h.
Actualité et tradition,
chansons,
gastronomie.
Bonsoir Alain, bonsoir Annie, bonsoir Laurent.
Moi je dis bonsoir à tous, c'est plus vite fait.
Bonsoir Laurent, bonsoir Annie qui est de retour.
Oh, je n'étais pas absente bien longtemps,
non.
J'étais absente.
Non.
Une toute petite semaine, mais c'était juste la semaine où il ne fallait pas partir.
Ben voilà. Voilà.
On me l'a vertement fait
mais
remarquer.
Mais vous nous en parlerez tout à l'heure.
Je vous en parlerai tout à l'heure, voilà.
Elle était en mission pour Inis et pour Couleur FM.
On peut appeler
en fait.
Ça comme ça, voilà.
Pour voir les caravages de Malte.
Alors, bien. Qu'est-ce qui s'est passé depuis deux mois que je n'étais pas là. Il s'en est passé des choses en Italie.
Oui et non.
Je vous sens désabusé.
Complètement. La situation politique de l'Italie. Pas la situation de l'Italie, la situation politique de l'Italie.
Oui, c'est bien de le préciser. Parce que souvent, il y a confusion.
C'est pas la même chose.
Oui. C'est pas la même chose.
Est absolument désespérante. Enfin, l'Italie est dans une situation de transition. Il n'y a plus de majorité sûre, puisque les députés de la tendance de Gianfranco Fini. Donc, je rappelle pour ceux qui auraient oublié, Gianfranco Fini. C'est la tendance de l'ancienne Alleanza Nazionale et qui était elle-même issue de l'ancien parti néo-fasciste du MSI, Mouvement Social Italien, qui s'est transformé, qui s'est démocratisé, qui s'est intégré dans le jeu politique. Et Gianfranco Fini est président de la Chambre des députés et il a rompu. Il était rentré donc dans le parti de Berlusconi, il avait dissous son Alleanza Nazionale, et il vient de rompre avec Berlusconi, parce qu'il n'en peut plus, lui non plus, du contenu et de la forme de sa politique. Alors récemment, Berlusconi a posé la question de confiance au Parlement, il est venu refaire des promesses, que, comme les précédentes, il ne tiendra pas. On s'aperçoit qu'il n'a tenu aucune promesse. On reparle en ce moment, par exemple, je prends un exemple parmi beaucoup, des ordures à Naples.
Quand c'est il a réglé, ça, le problème des ordures
à Naples. Voilà, oui, c'est réglé. Il est arrivé au gouvernement, il a fait sa première réunion de conseil des ministres à Naples en disant « dans deux mois, c'est réglé ». Bon, mais il n'a rien réglé du tout. Le problème, c'est qu'il y a toujours autant d'ordures à Naples et qu'à nouveau, les Napolitains sont obligés de brûler les ordures dans les rues pour éviter la multiplication des rats. Et ils manifestent parce que ils ont toujours autant d'ordures qu'il y a deux ans. Dans les Abruzzes, c'est pareil. Après le tremblement de terre, il avait dit « Oh, en septembre, c'est-à-dire trois mois après, un peu plus de trois mois après, tout sera reconstruit. » Et puis, il a reconstruit le centre de l'AC où il a pour y faire une réunion internationale pour laquelle il avait tout prévu en Sardaigne. Il a dépensé un fric fou, mais les gens, ils sont toujours sous des tentes et l'automne est là et l'hiver approche. Et ils sont extrêmement mécontents. Et il n'a rien réglé, même en faisant en sorte, par un de ses ministres corrompus qui s'occupait de tous ces problèmes, Bertolaso, il avait mobilisé ses amis entrepreneurs, etc. Rien n'est réglé. Les ministres de son ministère sont parfois obligés de démissionner parce que finalement, malgré toutes les protections qu'ils ont, ils sont convaincus de corruption, de faux en écriture, de choses comme ça. Et on commence à parler maintenant d'élections anticipées en janvier prochain.
Au lieu de
mars.
Mars. Ah oui, ça fait pas.
C'est mars, hein, je crois.
Deux mois, ça fait pas.
Au départ, ça devait être mars.
Oui,
je sais plus. C'est, oui. Enfin bon, en toute façon,
le 30. Oui, c'était même plus tard.
Plus tard, oui.
Et alors, Fini, aux dernières, je disais qu'il s'était présenté posant la question de confiance au Parlement. Il a fait des tas de promesses, mais les députés de la tendance de Fini ont quand même voté pour la confiance parce que, pour des raisons d'opportunité, parce qu'ils oui. ne sont pas mûrs pour se présenter. C'est-à-dire,
voilà, ils veulent bien des élections anticipées, mais pas immédiates.
Mais pas immédiates, parce qu'ils viennent de quitter le parti de Berlusconi, il faut qu'ils se reconstituent. Et comment réagit à cette situation où il est très mal en point? Comment réagit M. Berlusconi, comme d'habitude, en disant les juges...
C'est des communistes.
Oui, absolument. Ouais, ouais, ils se livrent à un complot contre moi, ils veulent ma peau... c'est un complot. Moi, je suis pur comme neige, je suis blanc comme neige. Je n'ai jamais, me suis jamais livré à aucune corruption. Je n'ai jamais commis aucun délit. Et il insulte les magistrats. Il a fait encore une émission. Ou alors, il tente de faire rire les gens. Alors, il s'est livré dans une conversation privée, mais dont il ne savait pas qu'elle avait été enregistrée, enfin privée, avec quelques généraux, quelques militaires.
Privée et calculée quand même.
Oui. Il s'est livré à des plaisanteries odieuses sur les Juifs, sur les femmes, sur Madame Rosibindi.
C'est la première fois, si on veut.
Oui, il l'attaque habituellement en disant que si elle était plus belle, elle serait plus efficace. Enfin bon, c'est le genre de plaisanterie sur les femmes qui sont très...
Qui plaît à un certain public, certainement.
Et qui plaît à un certain public, voilà. Ouais. Il essaye de faire rire. Et il y a des gens qui trouvent ça drôle encore, ce qui est la preuve d'une débilité mentale et d'une capacité à revoter pour Berlusconi, d'ailleurs, qui est extrêmement inquiétante. Donc c'est pour ça que je dis que la situation interne politique de l'Italie est très, très désespérante en ce moment. Et puis, il ne se fait rien. Aucun problème n'est réglé. Il y a des services qui fonctionnent bien, parce qu'ils fonctionnent...
Tout seul,
Tout seul. La gendarmerie ou la police arrêtent quelques chefs mafieux. Alors, on fait un gros titre, mais bon, le gouvernement n'y est pour rien. C'est la suite d'opérations qui sont menées depuis des années, etc. Donc, je trouve que c'est assez désespérant, quoi. Je ne sais pas comment vous voyez.
Je pense déjà qu'il y a le phénomène politique en général, et après il y a la personnalité de Berlusconi qui le pousse à l'extrême. Mais au fil des années, il y a quand même eu un glissement au niveau politique.
Ah oui.
En Europe, il y a eu un glissement très net.
Oui, il n'y a pas qu'en Italie.
Depuis Thatcher et puis son homologue américain Reagan, bon, le système politique, économique, financier, la finance a pris le pas, enfin, on est plus sur le superficiel que sur l'idéologie, enfin, des tas de choses.
Il s'agit de créer des images,
voilà,
de
créer
communiquer.
Des images. Mais ce que tu disais sur Naples ou sur les tremblements de terre, en fait, le style de Berlusconi, qui a quelques adeptes en Europe, c'est intervention immédiate pour faire croire qu'on fait quelque chose. Et c'est vrai que l'intervention est immédiate, et après on laisse tomber. Quoi. C'est toujours dans l'image, c'est toujours le même problème. Alors il y a une sociologue italienne, d'ailleurs, qui s'exprime, qui écrivait en français et en italien, qui a publié un essai qu'elle appelle « Le contrat de défiance », Michela Marzano. Et ce contrat de défiance, en fait, elle explique bien ce... Bon, les promesses politiques ont toujours existé, notamment en campagne, ça a toujours existé. Mais maintenant, c'est devenu beaucoup plus grave, c'est-à-dire que c'est vraiment du mensonge. Quoi.
Et voilà, il est devenu normal
de mentir.
De ne pas les appliquer.
Voilà, de
ne
pas les appliquer. Ah, oui. Et c'est d'autant plus surprenant qu'avec la force des médias, des enregistrements, de tout ce qui peut être dit mais enregistré, alors qu'auparavant ça n'était qu'écrit, ça ne choque personne. Quoi. C'est-à-dire, même si on prouve que la personne mais menti honteusement, c'est pas un problème. Quoi. C'est devenu monnaie courante et c'est... Et évidemment, d'ailleurs, elle disait elle-même, hein, la situation européenne à ce niveau-là est inquiétante. Elle disait en France et en Italie en particulier, parce que, et évidemment, avec Berlusconi, encore pire, vu le personnage. Mais c'est un système qu'on a l'air, qui semble un peu caduque, quoi. Mais quand, où il s'arrêtera, comment, sous quelle forme, c'est un. C'est un vœu pieux.
Ce qui est très grave, c'est de voir le Premier ministre qui déclare partout et à toute occasion que la justice est pourrie.
Oui, voilà.
Et que la justice c'est pas la justice. Et que c'est injuste, que c'est des complots contre l'État. Or, c'est très grave, parce que le chef de l'État, enfin, un des chefs de l'État crée la...
Chef du gouvernement, crée la défiance
vis-à-vis de l'État. Mmh. On peut être néolibéral et ne pas croire à l'État, mais à ce point, c'est très grave, parce que ça crée dans le pays une démoralisation. Les gens ne croient plus à rien, il n'y a plus de justice. Donc, pourquoi on ne commettrait pas des délits, après tout, s'il n'y a pas de justice juste on va essayer d'échapper et tout est permis.
Oui, ça ressemble beaucoup à la France.
C'est très grave. Disons que la France commence à ressembler beaucoup.
Les emplois fictifs.
Les
emplois fictifs, on l'a remboursé, puis ça y est, c'est terminé.
Dans ce qui sont.
C'est lui qui a tout pris, alors que. Il avait quand même quelque chose à faire. Enfin,
là, c'est une des décisions absolument scandaleuses.
Ce sont des jugements qui sont scandaleux. Et on a raison de se méfier de la justice quand on voit des choses comme ça.
Mais M. Berlusconi a toujours dit que son meilleur disciple était un certain Nicolas Sarkozy. C'est pas moi qui l'invente.
C'est vrai que le fait en plus que entre guillemets il y a des adeptes, c'est pas obligatoirement quelque chose de. Alors bon, les Italiens quand même ne sont pas tous berlusconiens. Je pense que ça existe hein, le mot berlusconien, mais
on va l'inventer.
Il y a encore eu une manifestation de rue le week-end dernier. Le peuple violet.
Et vous savez pourquoi
Il s'appelle Violet ?
Oui.
Non, j'allais vous le demander.
Ah ben, tout simplement parce que c'est la seule couleur politique qu'ils ont trouvée qui n'avait été utilisée jusqu'à maintenant.
Ah bon,
par
d'accord.
Aucun parti.
Ah oui, rouge,
politique.
Vert, bleu, voilà. C'est déjà pris. D'accord.
Et donc, ils ont choisi le violet pour bien marquer qu'ils sont hors du système politique, hors du système d'accord. des partis politiques actuels. Ce qui n'est pas rassurant parce que ce qui veut dire. Enfin, c'est rassurant parce qu'il y a énormément de monde à leur manifestation. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas actuellement en Italie une opposition totalement crédible, quoi.
Voilà. Une opposition bien constituée, parce que ces gens violets, là, c'est une opposition.
Ah, c'est une opposition.
Oui, mais c'est pas un parti.
Non, voilà, c'est pas un parti, mais il y a pas besoin d'être dans un parti pour être opposant.
Non, mais il y a un moment, il faut fédérer tout ça.
Oui, est-ce qu'il y aura des candidats aux prochaines élections du peuple violet ? J'en sais rien, c'est pas évident.
Une chanson violette ?
Alors, on va écouter une chanson, puis après, on parlera d'un nouveau venu, d'un personnage en politique dont on commence à parler en Italie. On va écouter Roma Capocce. On va peut-être passer des chansons aujourd'hui qui évoquent des villes.
Sur les villes.
Sur les villes. Ouais.
Et des chansons anciennes.
Pour la plupart.
Violette, non ?
On en parle.
Non, pas Violette. Non.
Pas spécialement, non. Mais on en parlera une prochaine fois quand les disques seront arrivés. Mais les cantautori qui ont été les grands chanteurs d'Italie, beaucoup disent que maintenant, c'est plus eux qui représentent la chanson politique et sociale aujourd'hui.
Absolument.
C'est le rap, c'est le reggae. Et on écoutera, quand les disques seront arrivés, des chansons de rap actuelles qui sont aussi très anti-berlusconiennes.
Alors, Antonello Venditti, Roma Capocce.
Se bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone, e le coppiette se ne vanno via. Quanto se bella Roma, quando piove. Quanto sei grande Roma, quando è il tramonto, quando l'arancia rosseggia ancora sui sette colli, e le finestre so tanti occhi che ti sembrano di quanto sei bella. Ah, 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 ah.
quanto sei bella. Oggi mi sembra che il tempo si sia fermato qui. Vedo la maestà del Colosseo, vedo la santità del capoccia del mondo infame, Roma capoccia del mondo infame. Una carrozza alla va con due stranieri, un rubi vecchi te chiede t'ho scoperta stamattina, io t'ho scoperta oggi. Capoccia del mondo infame, Roma capoccia del mondo infame.
Antonello Venditti, c'est une chanson de 1972.
Et c'est encore, c'est la chanson d'un Romain
qui écrit sur Rome,
qui aime sa ville.
Et qui aime sa ville.
Et qui chante ses beautés et sa vie populaire.
Il a beaucoup écrit sur Rome, beaucoup chanté Rome.
Oui, Venditti. Et puis il a son accent romain.
Romain, ouais, très, très significatif.
Oui, oui, oui.
Alors Annie, tu disais, mais quelle opposition, Jean, à juste titre, disait, le problème, c'est qu'on ne voit pas surgir une opposition
oui,
tout au moins
tout
moins construite.
Sans être fédéré en partie. Quoi.
Alors, il y a un homme politique en Italie dont on ne parle pratiquement pas en France, et dont on entend parlant, par contre beaucoup parler en Italie. Alors,
ouais.
Certains sont très partisans de lui, on va en parler. D'autres, au contraire, disent, oui, c'est encore un nouveau politique qui surgit.
Qui veut créer son parti.
Et il s'agit de Nicola Vendola, qui est qui se fait surnommer Nicky. Alors certains disent que c'est
Nicky,
soit pour le diminutif de Nicola, ouais. Soit pour hommage à Nikita Khrouchtchev. Voilà. En fait, il a un parcours politique assez pas éclectique, parce qu'il y a presque une logique. Au départ, ce monsieur a eu un doctorat en lettres et philosophie. Il a fait une thèse notamment sur Pasolini. Au départ, il faisait partie du Parti communiste italien, le parti lorsque ce PCI était très puissant, on va dire. Puis petit à petit, il a glissé vers Refondation communiste. Et puis il s'en est là aussi séparé pour créer son propre mouvement. Alors, il a aussi... il est promoteur de l'Archigay en Italie et de la Lila. La Lila, c'est la Ligue italienne de lutte contre le sida.
Ah, Archigay ?
Archigay, oui. Archigay. Il a un look d'enfer, on dirait certains, avec sa petite boucle d'oreille. Il a depuis très longtemps proclamé son homosexualité. Alors, il est à la fois dans une mouvance, on va dire, quasi proche de l'extrême gauche. En même temps, il avoue être croyant. Il est élu président de région dans les Pouilles. En 2010, il a été d'ailleurs réélu, mais largement. Ce qui veut dire qu'il a quand même...
Une audience
et des gens qui le suivent. Et puis, il pratique les... Ça vous rappelait peut-être quelqu'un. Sur Internet, les fabriques, enfin les usines où chacun peut s'exprimer, une sorte de démocratie participative et directe. Alors, visiblement, il a un écho auprès de beaucoup d'Italiens, notamment peut-être de certains jeunes. Et il... Alors, pourquoi on en parle? C'est parce s'il y a des primaires de gauche en Italie, ce qui semble se dessiner, il se présenterait comme candidat à ces primaires. Voilà.
Alors, et son parti, alors c'est quoi?
Il a fondé plusieurs mouvements, en fait. Un qui est pratiquement mort dans l'off, qui était un mouvement qui émanait à la fois de Refondation communiste, des ex-déçus aussi du parti de gauche le plus puissant, le parti socialiste, on va dire, même si c'est pas l'ex-PC qui est devenu le parti de gauche en Italie et qui a déçu beaucoup de gens de gauche. Et donc il y avait deux ces gens de gauche-là qui ont rejoint Nicky, et puis aussi des ex-verts qui l'ont rejoint. Alors qu'il avait formé un premier mouvement qui est mort dans l'off, parce que, bon, à l'intérieur de ce mouvement, visiblement, tout le monde n'était pas d'accord. Et il vient de rappeler... Alors là, il a... Le dernier mouvement qu'il a fondé, c'était « La gauche et la liberté ». La gauche et la liberté. Mais enfin, il s'est présenté sous une étiquette de centre-gauche aux élections, par contre. Voilà.
Oui, alors que Rifondazione Comunista, c'était quand même ceux qui avaient voulu, lorsque le PC abandonne un certain nombre de choses de la dictature du prolétariat au titre même de communiste, c'est la partie de l'ancien parti communiste italien qui avait voulu garder le mot communiste dans son titre. Mmh. Donc c'était, disons, ça ne veut plus dire grand-chose, la gauche du PCI.
Voilà, enfin bref, tout ça pour dire que voilà, c'est un personnage non pas vraiment nouveau, parce qu'il a une cinquantaine d'années, il y a longtemps qu'il est en politique, mais qui pousse de plus en plus et qui peut faire des adeptes,
justement devant ce vide.
Mais c'est assez significatif de la situation, de ce vide politique qui existe, parce que de temps en temps, on voit surgir des individus. Alors, il y en a quelques-uns comme ça. Il y a Di Pietro, par exemple, l'ancien juge de la Tangentopoli, des grands procès qui ont liquidé le passé politique de la Première République au début des années 90, qui a créé son parti, l'Italie des valeurs. Il y a des gens comme Beppe Grillo qui joue une autre carte de la dérision systématique de tout, de la critique de tout le monde, sauf de lui-même. Et
qui lui aussi a fait effectivement a été suivi.
Voilà.
Ouais, on trouve toujours quelqu'un qui est de votre avis.
Il y a une Anne Moretti à une certaine époque, quand il a fait ses...
Tourner autour des monuments.
Oui, ses tours de monuments.
Girotondi.
Mais on voit surgir des personnalités... intéressante ou pas, j'avoue que pour
Après,
ma part,
là, c'est
Beppe Grillo me paraît plus destructeur que constructeur, mais qui ont un charisme, mais ils ne se structurent pas derrière eux des mouvements très, très large et très significatif, quoi. Et surtout très très organisé, suffisamment organisé pour conquérir le pouvoir, parce qu'au fond il s'agit de ça, il s'agit d'exercer le pouvoir. Or, par des gens comme Beppe Grillo n'ont rien à faire du pouvoir. Ils voudraient bien être élus éventuellement,
mais c'est évident.
Mais ils n'ont rien à faire de la gestion des affaires. Ils critiquent toute gestion des affaires.
Coluche, quoi, voilà.
Ça pourrait ressembler, avec le décalage d'années, parce qu'on n'est plus à la même époque.
Oui, il y a...
une histoire de se moquer de ce qui existe, Bon, même si on n'a rien pour...
Il sera peut-être même candidat à la présidence de la République.
Disons que moi, Beppe Grillo, je voyais surtout que la politique étant venue dans le showbiz vient dans la politique. Enfin, c'est un peu logique. Il y a une logique qui n'est pas obligatoirement satisfaisante, d'ailleurs.
Non, du tout, mais qui est vrai.
Et on rencontre énormément de gens qui savent pas quoi faire, qui disent mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça, qu'est-ce qu'on peut faire contre, entre autres, ce système de télévision qui massacre constamment, qui répète tous les soirs et tous les jours dans la maison, dans chaque maison italienne. Et Berlusconi contrôle toute la télévision pratiquement, sauf des télévisions locales. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça qui démolit tout, qui crée des images mensongères, mais comment s'apercevoir?
Non, mais il y a aussi le problème de l'immédiateté et de la consommation immédiate, quoi. Mais bon, tout ça est un glissement depuis des années, ce qu'on disait tout à l'heure, de systèmes aussi, qui ne sont pas qu'en Italie ou en France. Et puis ce qu'il y a aussi, c'est que dans plusieurs pays maintenant, des partis mais annoncés extrémistes poussent. Même dans certains pays qu'on prend en exemple au niveau démocratique, ils ont des poussées de mouvements extrémistes. Donc c'est quand même...
Il y a
même un vrai malaise, quoi.
D'extrême droite, c'est très clair, à travers la Ligue en Italie. Et puis, c'est pas impossible qu'il y ait des poussées, des formes de terrorisme anarchiste, disant on ne peut plus rien faire, on va tirer, quoi. Récemment, il y a un journaliste de Libero. Libero est un des deux grands principaux journaux qui sont au service de Berlusconi, on peut dire. Lui est un dieu adoré dans ses journaux. Et un journaliste de Libero a été l'objet d'un attentat. Alors, il n'y a pas eu de mal, parce qu'il avait deux gardes du corps. Du coup, on lui en met quatre. Alors, mais la présentation est telle, par ailleurs, qu'on ne sait pas s'il faut y croire. Parce que celui qui a essayé de l'attenter était déguisé en gendarme. Est-ce que c'est un montage pour lancer un journaliste favorable à Berlusconi?
Non, mais c'est possible.
On ne sait plus. Et c'est ça qui est très grave.
Une telle puissance.
À force d'avoir fait un peu n'importe quoi, c'est vrai que maintenant ils sont plus crédibles.
On s'écoute une nouvelle chanson, une nouvelle dans l'émission, mais qui date de 1975, Gênes.
Dans l'émission sur Couleur FM,
97.1.
Voilà. Téléphone 09 79 21 33 77.
Et avec toujours Laurent à la technique, on va écouter Genova per noi, donc de Paolo Conte.
Et c'est un Turino.
Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova. E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. E pur parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha, che come noi è forse un po' selvatica, ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai. Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova, dicevo, è un'idea come un'altra. Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce e di follia, Oschia, pesci, Africa, sono nausea, fantasia. E intanto nell'ombra dei loro armadi tengono lini e vecchie lavande. Lasciaci tornare ai nostri temporali, Genova, ai giorni tutti uguali, in un'immobile campagna con la pioggia che ci bagna, i gamberoni rossi sono un sogno e il sole è un lampo giallo al parabrisi. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova.
Genova, avec un fond musical.
Et de quelle année ?
1975.
Voilà, tu nous passes des classiques aujourd'hui.
Voilà. Ouais.
Et c'est là aussi un Piémontais qui, quand il était étudiant, descendait jusqu'à Gênes pour d'Asti. Et Gênes est une découverte, un émerveillement.
Et il en exprime bien les multifacettes, tant musicales qu'en d'ambiance. Bien, alors en Italie, il y a quand même des choses intéressantes, et voilà pourquoi on continue,
bah oui,
nous, au niveau de l'association, de les faire, si possible, découvrir. On pourrait d'ailleurs parler des projets qui ont été dégagés de l'Assemblée Générale.
Ah oui, parle-moi de l'Assemblée Générale, puisque j'étais mandatée à Malte.
Oui, tu étais en mission.
Donc je n'ai pas pu y assister.
Oui, on a fait une Assemblée Générale donc, le 24 septembre dernier. Il s'est dit beaucoup de choses. D'abord, on était très, très nombreux, ce qui est intéressant. Mmh. Parce que, bon, il y avait 115 personnes, plus 35 qui ne pouvaient pas se déplacer et qui avaient envoyé un pouvoir. Mais quand on envoie un pouvoir, ça veut dire que...
Oui, qu'on s'intéresse à ce qui va se dire.
Voilà. Et ça a beaucoup surpris un certain nombre de gens qui militent dans d'autres associations, parce que nous-mêmes, l'année dernière, avions connu, non pas pour l'Assemblée Générale, mais pour les voyages, par exemple, un creux, et qui était manifestement dû à une situation, une morosité due à la crise, à une crise générale qui se répercutait sur le comportement des gens. Et donc on était nombreux, il y a eu une discussion sur les activités. Alors on a fait beaucoup de projets. D'abord les cours ont recommencé là depuis fin septembre, et on a à nouveau 6 groupes qui sont...
Entre 10 et 15 personnes.
Oui.
Donc c'est complet.
Moi, dans mes deux groupes...
Excuse-moi, Jean, si quelqu'un veut se raccrocher, c'est important, on vient de démarrer.
Ah bon,
donc il y a pas de...
Mais on en a deux où il y a une vingtaine d'inscrits.
Ah oui, oui.
Et heureusement que...
Les classes bien remplies. Voilà.
Oui, parce que pour nous, 20, c'est un peu le maximum pédagogique.
Oui, 20. Pour un groupe, c'est beaucoup déjà.
Pédagogiquement... efficace. Et puis, donc, on peut s'adresser à l'INIS au 04 74 93 41 28 s'il y a une demande de cours. Mais il faut faire vite maintenant, parce que quand
les cours ont
commencé, voilà, c'est difficile, surtout pour les débutants, c'est difficile de se remettre dans le coup. Et puis, on a parlé des voyages.
Qu'est-ce qui est sorti ? C'est toujours intéressant, les voyages.
Oui, il y a plusieurs projets. Il y a un projet de long week-end, enfin 3-4 jours à Milan, qui a été repris.
Qui est attendu depuis longtemps.
Mais Capricorne, maintenant.
Capricorne. On a une date fixée, à peu près.
On a quelques hésitations.
On est en train d'en travailler, parce qu'on avait proposé de profiter du 11 novembre, qui est férié en France, mais pas en Italie, donc c'était bien. Et puis, ça ne semblait pas passionner les foules de partir pour le 11 novembre. Bon. Alors, on va
voir.
Ils ne
vont quand même pas tous au défilé.
Peut-être. Non, mais comme c'est un jeudi, Il y en a peut-être qui ont fait d'autres projets.
Oui.
On fera pendant l'année à nouveau un week-end à Turin, parce qu'on y...
Ça plaît toujours beaucoup.
On
aussi,
y tient beaucoup.
Oui.
Bien sûr, le voyage, le prochain déplacement au carnaval en mars 2011 est plein depuis trois mois déjà.
Depuis le mois de mars 2010.
Depuis presque six mois, oui.
Oui.
Et puis, on se demandait si pendant les vacances de Pâques, on faisait un long voyage, comme d'habitude, où un des projets est de reprendre en plus court le déplacement qu'on avait prévu et qu'il avait fallu annuler de Nice à Saluzzo, en intégrant seulement ces deux villes du Piémont, Saluzzo, Cuneo, dont les gens ne savent pas combien elles sont intéressantes. Pourquoi ? Parce qu'on n'en parle jamais. Parce que les agences n'organisent jamais de voyage ici, parce que dans les images de l'Italie, on parle du cupolone, comme dit Venditti, on parle du Colosseo, et parce que c'est les images qu'il faut répandre, et puis on ajoute la tour de Pise et un canal à Venise.
Il y a trop de belles choses à voir en Italie. C'est peut-être pour ça qu'il faut faire une sélection, c'est ça qui est dommage.
Et oui, mais on ne peut pas toujours n'aller voir que Rome, Florence, Venise. Il y a énormément de villes comme Saluzzo et Cuneo, par exemple, qui ont été des capitales aussi, de marquisats, et qui ont une richesse extraordinaire, et où on est remarquablement bien, entre autres parce qu'il n'y a pas de touristes.
Ça, c'est une important qu'il y ait beaucoup de touristes.
Ou peu. Ouais, ouais. Voilà, et puis alors, on va poursuivre, et on l'a déjà fait avec le spectacle de Venera Battiato, on va poursuivre notre travail sur l'immigration italienne dans le Nord-Isère.
Voilà, à ce propos, puisque maintenant il prend corps, il y a une petite commission qui se dégage pour travailler là-dessus. Là, par contre, tu demandais si on pouvait raccrocher les cours d'italien. Oui, mais rapidement.
Oui.
Mais sur les...
L'immigration.
Des candidats à l'interview, si je veux dire,
oui.
Là, on est preneurs. Hein.
Ah ouais.
Oui.
Donc, on peut toujours téléphoner au 0474 93 41 28 pour soit nous donner une liste de personnes susceptibles d'être... Alors, on n'a pas de lieu, on ne limite pas les interviews à la ville de Bourgoin ou à la ville de l'île d'Abeau, mais au Nord-Isère en général,
oui,
avec des frontières en souples, on va dire. Hein.
Oui, bien sûr.
Et aller jusqu'à la Tour du Pin.
Et il y a... Et puis, ce projet est intéressant parce que... Il s'est fait des choses sur Lyon, sur Grenoble, mais dans cette... cette région intermédiaire, finalement, peu de choses se sont faites aucun travail même ne s'est fait là-dessus.
Et aucune enquête systématique.
Alors qu'il y a un monde fou de gens d'origine italienne et de différentes régions d'Italie en plus. Donc,
tout à fait.
Donc là, ce travail prend corps, oui. Et puis il y a d'autres projets encore. On parlait d'un éventuel projet dans le Val d'Aoste où on mêlerait à la fois les visites de la région. Et puis peut-être essayer d'apporter aussi, si on arrive à monter tout ça, un peu du Nord-Isère en Val d'Aoste, c'est-à-dire montrer ce qui se fait ici, tant en musique, qu'en cuisine, qu'en produits, des tas de choses.
Alors une des propositions, tu parles de cuisine, qui a été faite à l'Assemblée Générale, est de monter un atelier de cuisine italienne. C'est très tendance, nous a dit quelqu'un.
La cuisine italienne ou l'atelier cuisine ?
Non, l'atelier cuisine.
Les grands chefs.
Comme il y a deux ans, on a démarré une chorale italienne qui continue et qui cette année travaille sur les champs d'immigration d'ailleurs. Et on a ce projet de créer un atelier de cuisine italienne. Alors, on attend un peu les réactions maintenant.
Si on en croit les expériences, mais sur une journée qui avait été faite à l'époque où c'était pas tendance, justement. Il y a de nombreuses années avec...
Des napolitains. Ça avait bien marché.
Et une autre fois avec des cuisiniers d'Inis.
Oui. On avait fait un atelier gnocchi.
Voilà.
Qui avait eu beaucoup de succès.
Beaucoup de succès. Et je pense que faire un atelier... En plus, il y a tout un travail autour de la cuisine, hormis le goût, le plaisir, la découverte des régions, de la langue aussi.
On mêlerait tout ça, bien sûr.
Et où alors ? Parce que vous avez une grande cuisine.
Pour le moment, alors comme toujours dans un projet comme ça, il faut que quelqu'un en prenne l'initiative. Une fois qu'on a désigné un coupable, qui s'auto-désignera, lorsque une personne ou deux prendront la décision de mener ce projet à bien, après la partie technique, je pense qu'on se fera fort de trouver un lieu. Et puis,
oui, ça c'est possible.
C'est pas le plus difficile finalement.
Non, et ça serait sympathique. Et puis on a commencé cette année un travail de publication. Donc on a décidé d'imprimer des petits livres. On vient d'en publier deux. Une petite histoire du Piémont, parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose en français, sauf des guides touristiques, bien sûr, mais ça, ce n'est pas un guide touristique. C'est une histoire du Piémont, mais qui devrait servir de base pour quiconque veut organiser des voyages dans le Piémont, d'ailleurs. Et puis, donc, c'est un volume, c'est deux volumes de 58 pages, sur papier glacé et qui est très beau et
très bonne qualité,
les photos ressortent très très bien. Et puis le second volume est une brève histoire de 1000 ans depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, qui commence par un rappel de la façon dont Stendhal conseillait de flâner à Milan. Et puis qui repart de la Milan celte, romaine, ambrosienne, jusqu'à la grande ville moderne, des stylistes, des industriels, des banques d'affaires, des industries les plus modernes, de la Fiera di Milano, etc.
Et alors vous dites, on a commencé une édition. Vous avez l'intention d'étendre ça à d'autres régions, d'autres villes ?
Alors, il y a actuellement un troisième livre qui est en cours d'écriture, qui est lié un peu à l'actualité. C'est le 150e anniversaire de l'unité italienne en 2011, puisque le Royaume d'Italie est déclaré en février 1861. Ça fait 150, ça va faire 150 ans. Et il y a une histoire de l'unité italienne qui est en cours d'écriture.
D'accord.
Et qui rappellera pas seulement les épisodes de 1859-1861, mais qui reprend les choses plus à fond. Et comment s'est constitué ce peuple depuis les origines, et que représente cette unité ? On a unifié quoi ? Unité géographique et politique certainement, mais on s'aperçoit aujourd'hui que déjà même dans le seul royaume de Piémont-Sardaigne, les Sardes étaient différents des Génois, qui étaient différents des Piémontais, qui étaient différents des Lombards, etc. Et déjà quand on regarde ces deux histoires du Piémont et de Milan, on s'aperçoit que ce sont deux histoires différentes qui ont connu, par exemple, la Lombardie et Milan sont occupées pratiquement depuis le XVe siècle. Ont toujours été occupées par les Espagnols, par les Autrichiens ensuite, quelquefois un tout petit peu par les Français. Mais le Piémont, jamais. Le Piémont est, depuis le Xe siècle, est un État indépendant. Et ça fait deux histoires complètement différentes, qui ont beaucoup de peine d'ailleurs à s'unifier aujourd'hui.
Tout en étant proches.
Tout en étant proches. Et il reste beaucoup de questions. Il reste une question méridionale qui n'est plus la même qu'en 1870, qui est autre, mais qui existe. Il reste une question romaine, d'une certaine façon. Il y a un poids de l'Église dans ce pays qui reste redoutable, et que des gens aussi géniaux que Cavour, par exemple, n'ont pas réussi complètement à liquider, même si l'Église n'est plus un pouvoir temporel. Mais elle a cherché à compenser en se donnant des pouvoirs idéologiques comme l'infaillibilité pontificale, auquel les catholiques ne comprennent rien. D'ailleurs, ils croient que toute parole qui sort de la bouche du pape est infaillible, alors que l'infaillibilité n'a fonctionné qu'une fois. Mais on s'aperçoit que dans la vie politique italienne, l'alliance, le soutien d'une institution comme l'Église catholique et le Vatican, et d'un État comme le Vatican, a une importance, et Berlusconi joue beaucoup là-dessus d'ailleurs. C'est une des forces dont il cherche à ne pas trop se couper. Il y réussit mal actuellement. Donc, il reste beaucoup de choses. Cette brochure essaiera de montrer quels sont les problèmes actuels de l'Italie.
Voilà, tu parlais de publications notamment sur Milan. On va écouter Milano. Voilà. Par non pas un Milanais, mais par Lucio Dalla, qui est d'Emilie-Romagne.
De Bologne.
De Bologne même.
Milano vicino all'Europa, Milano che banche, che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride, si diverte. Milano a teatro, uno le da torero, Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri, polizia, che ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano portata di mano, ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano. Poi Milano e Benfica, Milano che fatica. Milano sempre pronta a Natale, quando passa piange ci rimane male. Milano sguardo maligno di Dio, zucchero e catrame. Milano ogni volta che mi tocca di venire, mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Milano senza fortuna, mi porti con te, sottoterra o sulla luna. Milano tre milioni, il respiro di un polmone solo, che come un uccello gli sparo ma anche riprende il volo. Milano lontana dal cielo, tra la vita e la morte continua il tuo mistero. Perduta dal cielo, tra la vita e la morte continua il tuo mistero.
Voilà, Milano, une chanson de 1978. Elle n'a pas tellement vieilli.
C'est une non,
chanson,
non, c'est
d'orchestration
vrai.
Et tout.
Et j'ai oublié de dire que les deux brochures dont on a parlé sont en vente à la librairie Majolire de Bourgoin-Jallieu au prix de 10 euros chacune.
Voilà. Les premières demandes, d'ailleurs, ont été importantes. Le jour de l'Assemblée Générale, les deux brochures, visiblement, ont attiré beaucoup d'amateurs.
Oui, oui, oui.
Alors, Annie, cette mission.
Alors cette mission, donc, vous m'aviez gentiment confiée, c'était d'aller voir les Caravages de Malte. Malte est une toute petite île qui est au sud de la Sicile, qui fait partie, enfin géologiquement, de la Sicile. Il n'y a que 90 km qui séparent les deux. Et l'île s'est séparée de la Sicile au moment où les glaciers, les grands glaciers de là-haut ont fondu et la Méditerranée a monté son niveau. Donc le Caravage... qui est un Milanais, enfin bon, Michelangelo.
Il est Merisi. De Caravaggio.
Oui, Caravaggio. Voilà, on ne sait pas exactement si c'est de Caravaggio ou de Milan. Enfin bon, c'est ce qu'on appelle le Caravage. C'était un voyou, on dirait aujourd'hui un voyou, un délinquant.
Disons un marginal.
Un marginal, mais bon, qui avait du génie. Il faut reconnaître qu'il savait se battre, jouer aux cartes en trichant et peindre. Quoi, voilà.
Mais dès qu'on joue aux cartes, on triche. Tout ça.
Oui, ouais, mais...
il était d'origine. D'origine populaire, il est l'expression de la situation qui était celle de 80% de la population.
Oui, au XVIe siècle.
Pas seulement, encore à une date plus récente, on parlait de l'unité. Ceux qui votent, c'est ceux qui ont, quelquefois on attend 30 ans, et il faut avoir un revenu. Et il faut ne pas être analphabète, alors les paysans sont analphabètes. Il y avait 90 000 personnes qui votaient dans le Piémont, sur 3,5 millions, 4 millions d'habitants. Donc, les autres, comment ils vivaient?
Et comme ils pouvaient.
Oui, y compris en trichant aux cartes.
Notre Caravage sait très bien qu'il est doué pour la peinture et il est orphelin très tôt. Son père meurt, il a 5 ans. Sa mère meurt, il a 18 ans. Donc, il part à Rome en se disant, c'est là-bas que je vais faire fortune avec ma peinture, parce que je suis doué pour la peinture. Donc, il part à Rome, mais il n'est pas aimé par l'aristocratie romaine qui est méprisante et qui n'est pas assez intellectuel. Donc, il ne doit son salut artistique qu'à un cardinal, le cardinal Del Monte, et qui l'embauche à son service. Et à l'époque, quand on était remarqué par un grand, on avait sa fortune de fête. Donc, malheureusement, il n'a pas su tirer parti professionnellement, parce qu'il jouait aux cartes, donc il jouait à ce qui est un peu l'ancêtre du tennis aussi aujourd'hui. Et quand il perdait, il ne voulait pas payer ce qu'il devait à l'adversaire. Donc, pour ne pas payer ce qu'il doit à son adversaire, il le tue. Et après, il fallait fuir parce qu'il était poursuivi, évidemment, par la justice romaine. Donc, il fuit à Malte. Enfin, et à Malte, il pense devenir chevalier de l'ordre de Saint-Jean, les chevaliers de Malte, parce qu'ils vont reconnaître ma grande qualité. Et effectivement, le grand maître de l'époque, qui avait un drôle de nom, il s'appelait Olof von Wignancourt. il lui fait faire notamment le tableau qui est à l'oratoire de la cathédrale Saint-Jean, qui est un très grand tableau qui fait presque 6 mètres sur 3, qui est au fond d'une pièce toute noire. Enfin bon, les fenêtres ont été fermées par des rideaux noirs pour ne pas abîmer la peinture. Et on rentre dans cet oratoire. Et moi, je l'ai levé la tête, je lui ai dit, mais où est-ce qu'ils ont mis les spots pour éclairer le tableau? Et il n'y a pas de spot. Il y a une petite lampe de rien du tout. Et cette petite lampe de rien du tout illumine ce tableau. Les peaux sont d'une beauté incroyable. C'est la décollation de Saint-Jean. Il a toujours été marginal et provoque. Il a signé de son nom avec le sang qui sort du cou de Saint-Jean. Voilà, c'était la première fois qu'on osait signer avec du sang. Enfin, c'est quelque chose de magnifique, magnifique. Moi, je suis restée, je ne sais pas, peut-être un quart d'heure, une demi-heure devant ce tableau. Cette lumière qui sortait de la tête de Saint-Jean, de son bourreau et de la femme qui récupère la tête dans un plateau, c'était rien. Il n'y avait rien à dire, il n'y avait qu'à regarder et se dire, mon Dieu, il va falloir s'en aller, parce qu'évidemment, il y a tellement du monde, on nous fait filer assez vite, mais moi, j'irais passer la journée devant ce magnifique tableau. Et puis, alors, il y en a un autre plus petit, qui est un Saint Jérôme, pas le plus connu, un autre Saint Jérôme, bon, où il est juste avec un petit chiffon autour de lui, pour cacher sa nudité, puis qui est en train de traduire les évangiles. Mais la décollation de Saint Jean, à elle seule, vaudrait presque le voyage à Malte. Il y a d'autres choses à voir à Malte, mais c'est une chose à ne pas rater. Quand on fait la collection des Caravages, comme moi, toutes les fois qu'on passe quelque part où il y a un Caravage, on va vite le voir, parce que c'est toujours le même émerveillement devant sa science et sa possession de la peinture. Quoi.
Ah, il a révolutionné l'histoire de la peinture.
Le clair-obscur du Caravage, c'est... Autant, Léonard faisait des sfumati, fallait que ce soit... Autant lui, il contraste l'ombre et la lumière, et c'est remarquable.
Oui,
voilà.
Mais c'est vrai que les religieux n'appréciaient pas beaucoup ces provocations. Ils n'appréciaient pas, par exemple, que les apôtres soient représentés avec les pieds sales.
Voilà, la Sainte Vierge aussi, la Sainte Vierge, avec les pieds sales.
Dormition de la Vierge, il a comme modèle le cadavre d'une femme qui s'est noyée dans le fleuve. Quoi. Et C'est vrai qu'elle est boursouflée et donc en état
de
décomposition. Elle a le ventre gonflé.
Absolument. Oui. Et ils n'ont pas aimé parce que ça...
C'était pas l'habitude qu'on avait de représenter la sainteté.
Sainteté ne pourrit pas après la mort.
Elle n'a pas les pieds sales. La conversion de Saint-Paul ou le supplice de Saint-Pierre, pareil, ils sont sales, leurs bourreaux sont sales, ils ont mis les pieds dans la boue. C'était certainement comme ça, en réalité.
Hein, il a une vision tragique de l'existence. Et puis il a une autre vision aussi de l'histoire, de la religion. Ces saints et ces apôtres sont des gens du peuple.
Oh, absolument.
Et pas des aristocrates bien habillés, bien peignés, bien perruqués.
Ils sont habillés comme au XVIe siècle. Ils peignent ce qu'ils voient. Et ce qu'ils voient, c'est... Ils magnifient ce qu'ils voient. Ils ne peignent pas ce qu'ils voient, ils le magnifient. Et puis, il meurt, ce pauvre Caravage, à l'âge de 39 ans, de la malaria, sans savoir que le pape lui a pardonné et l'autorise à revenir à Rome. Donc, il meurt à Porto Ercole, je crois.
On vient de retrouver quelques morceaux de son cadavre.
On est sûr que c'est lui ?
À peu près, c'est ce que disent les spécialistes.
Oui.
Et ça confirmerait qu'il serait mort d'une syphilis très grave, pas de la malaria.
C'est mieux de dire la malaria. C'est pas de sa faute, quoi, si les moustiques l'ont piqué.
Oui, c'est ça, oui.
Ah, voilà.
Tandis que là, c'était pas les moustiques qui l'avaient piqué. Enfin, c'est l'hypothèse. La dernière hypothèse, c'est récente, elle date de 6 mois. Il y a 3 os. Hein.
Et il n'avait pas signé Caravage sur ses fémurs.
Mais voilà.
Enfin, c'est un voyou qui avait du génie. Mais il avait du génie, ça c'est sûr. Je ne sais pas si c'était pas un voyou, mais c'était un génie, ça c'est certain.
Non, c'est pas parce qu'il a tué quelqu'un. Il n'a pas fait exprès, d'ailleurs, il a été attaqué, il se battait en duel. Bon, les duels, quand un noble tuait un autre noble, on ne disait pas que c'était un voyou.
Ah oui, mais bon, lui, c'était pas... selon que vous serez puissant, misérable.
Non, c'est un personnage extraordinaire, Caravage. Oui,
qui a roulé sa bosse, comme
on dit. Et qui a vraiment... C'est une rupture dans l'histoire de la peinture du XVIe et du début du XVIIe.
Voilà, alors je ne sais pas où sera le prochain Caravage que l'INIS m'enverra voir.
Ta prochaine mission.
Je suis volontaire pour aller voir les Caravages.
En attendant, donnez-nous vite
une recette.
Sur fond musical d'une chanson de Francesco De Gregori, qui est un Romain justement, et qui s'appelle Rimmel.
Alors c'est une recette que j'ai prise dans un magazine qui s'appelle Chic en Toscane. Voilà, donc sur... Elle est riche, cette recette. Enfin, calorique. Hein.
Donnez-nous vite, on a faim.
Il est pressé, il a faim. Alors, pour 6 personnes, moi je pense que 12, on doit pouvoir manger avec. 1 demi-litre de lait, 9 œufs ou 9 œufs, comment on dit 9 œufs ou 9 œufs, 9 œufs, voilà. Oui. 4 cuillerées de sucre à soupe, 4 cuillerées à soupe dessus, 3 tablettes de chocolat, 12 biscuits savoyards, ils appellent ça biscuits savoyards, c'est des boudoirs, hein, des petits boudoirs, voilà. Et du vin liquoreux, type Marsala, Muscat, voilà. Bon. Vous faites caraméliser le sucre dans une poêle anti-adhérente et mélangez bien avec une cuillère en bois. C'est important, la cuillère en bois. Hein, voilà. Dès qu'il prend une belle couleur dorée, vous le retirez du feu. Pendant ce temps-là, vous battez les œufs en omelette dans un bol jusqu'à ce qu'ils deviennent bien omelette, bien crémeux. Faites fondre le chocolat au bain-marie. Ajoutez-y dedans le caramel, les œufs battus et le lait. Faites légèrement frémir tout en continuant de remuer avec un fouet ou une cuillère en bois. Bon, vous trempez brièvement les biscuits dans la liqueur que vous aurez choisie et vous les disposez, c'est un peu comme le tiramisu, vous disposez ça en couches dans une terrine ou dans une verrine. Dans une verrine, c'est plus joli, on voit à travers. Donc, une couche de crème au chocolat, une couche de boudoir, une couche de crème au chocolat, voilà. Et vous maintenez au réfrigérateur jusqu'au moment de la dégustation. 3 tablettes de chocolat, 9 œufs, 12 biscuits. Moi, je dis qu'on mange à 12, hein. Plus qu'à 6, enfin, à moins qu'ils aient rien mangé avant. Quoi.
À moins que ce soit très bon.
À moins que ce soit vraiment très très bon.
À essayer au club de cuisine.
À essayer au club de cuisine, mais j'en ai d'autres que je vous donnerai les semaines suivantes. Voilà.
Au club de cuisine.
Au club de cuisine, voilà.
Bien, on a terminé pour aujourd'hui. Au revoir à tout le monde. Toutes questions donc au 04 74 93 41 28.
En attendant la prochaine émission de l'INIS sur Couleur FM.
97.1 et on finit donc avec Francesco De Gregori.
Mi domandavi se per caso avevo ancora quella foto in cui tu sorridevi.
l'écoute de l'Italie.
Une émission de l'INIS, le quatrième jeudi de chaque mois, de 18h à 19h.
Retransmission le dimanche suivant de 10h à 11h et le lundi suivant de 21h à 22h.
Actualité et tradition.
Chansons.
Gastronomie.